Donc voilà, à travers ce petit exemple, en fait, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est qu'il y a toute une complexité en fait, de décision. Il y a toujours plein de raisons différentes d'agir. D'accord ? Et on peut toujours trouver des bons, des arguments pour et contre telle ou telle action. D'accord ? C'est vraiment ça le point essentiel. Alors, sans entrer trop dans les détails, il y a un certain nombre de concepts en fait, qu'il faut pouvoir représenter si on veut parler d'éthique et de morale. Et comme je vous avais dit tout au début qu'on représentait le monde pour nos agents en termes de connaissances, d'obligations, d'interdictions, de permissions, de buts, d'accord, ces choses-là, et bien du coup, pour développer des IA qui vont avoir un raisonnement éthique ou moral, il va falloir intégrer un certain nombre de concepts. Le premier, c'est la notion de morale, que je distingue clairement de la notion d'éthique, hein, même si tous les philosophes ne sont pas d'accord sur le sujet. Mais la morale, c'est ce qui va nous permettre d'évaluer en bien ou en mal, en termes de bien ou de mal, d'accord, des actions, des états, d'accord, parfois des choses un peu plus complexes qui peuvent être des normes. D'accord. Je vous ai donné ici quelques exemples, c'est des exemples très, très simples, mais la morale a une notion quand même universelle de manière générale. D'accord. Elle va parler en termes d'absolu, d'accord, telle chose est bien ou est mal. D'accord. Et puis évidemment, quand on veut prendre des décisions, eh ben on peut se retrouver à devoir mettre dans la balance, décider de faire des actions qui ont à la fois des conséquences bonnes, puis des conséquences mauvaises, d'accord, ou qui ont plusieurs conséquences bonnes ou plusieurs conséquences mauvaises. Et puis on peut se dire, mais en fait, tous les biens ne se valent pas, ou tous les mâles ne se valent pas, d'accord. Ça, ce n'est pas vraiment de l'ordre de la morale, hein, ces questions-là, c'est plutôt de l'ordre de l'éthique. C'est comme ça que je différencie bien les deux. Et ce qui est important, c'est de voir que souvent, la morale, on est assez conscient de ce que c'est. Hein. Je veux dire, évidemment, la manière dont on appréhende ces questions-là en tant qu'être humain, ça change selon essentiellement nos cultures, notre éducation, mais quand même, les études montrent qu'il y a quand même un substrat assez clair dessus. Voilà. On sait que ce n'est pas bien de mentir de manière générale. D'accord, c'est une espèce de chose qui est intégrée, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'il est mal de mentir qu'on ne le fait pas ou qu'on n'a pas raison de le faire dans certaines situations. D'accord, c'est vraiment des choses assez indépendantes. Et c'est pour ça que le deuxième point, c'est la question de l'éthique. Donc là, je reprends l'image du trolley parce que c'est vrai, c'est vraiment ça le point essentiel. La question du trolley, ce n'est pas une question de morale. Ce n'est pas il est bien ou il est mal de pousser le bouton. Non, c'est étant donné les conséquences qu'on sait pour l'action et l'inaction, mettons-les dans la balance, regardons ce à quoi elles correspondent, comment est-ce qu'on peut les qualifier pour décider vraiment de ce qu'on doit faire ou non. Et pour être plus exact, pour qu'on puisse décider non pas de ce qui est bien ou ce qui est mal, mais de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Voilà. Et c'est vraiment ça la différence. L'éthique, c'est une question relative. D'accord ? L'éthique n'a pas de vocation universaliste. C'est dans une situation donnée, dans des circonstances données, dans un moment donné, il va être juste de faire ça ou non. D'accord ? Alors si la morale, c'est plutôt des règles, il est mal de ça, il est mal de ça. D'accord ? On peut la décrire de manière un peu différente, mais la plupart du temps, ça revient à ce genre de choses. L'éthique est un petit peu plus complexe. Et se construit généralement autour de principes, et quand on les regarde un peu dans les détails, peuvent être vus comme des principes calculatoires. D'accord ? Un grand principe éthique, qui n'est pas forcément qui est intéressant, mais qui peut être comparé à d'autres, bien sûr, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est un principe qu'on appelle l'utilitarisme, qui est né avec la réflexion de Stuart Mill, et qui a beaucoup servi, et qui sert toujours beaucoup, dans le monde de l'économie. L'utilitarisme, c'est celui qui va compter les choses et faire des paquets, mettre des poids à l'un ou à l'autre, d'accord ? Et quand on raisonne en disant bah, « il y a 5 personnes qui meurent ou une personne qui meurt, donc je préfère qu'il n'y en ait qu'une », c'est un raisonnement purement utilitariste. On met les poids dans la balance et puis on essaie de comparer. Et puis, il y en a plein d'autres principes. Il y a beaucoup de philosophes qui ont travaillé sur ces questions-là et on essaie chacun de proposer des manières de penser ou de raisonner pour pouvoir construire la notion d'éthique. Et par exemple, la doctrine du double effet de Thomas d'Aquin, c'est quelque chose qui est intéressant par certains aspects parce qu'elle nous dit, bon, c'est une doctrine conséquentialiste utilitariste, d'accord ? Un peu de la même manière que Stuart Mill, c'est-à-dire que les actions qui sont justes, ce sont les actions dont les bonnes conséquences sont proportionnelles au sens supérieur aux mauvaises conséquences. D'accord. Donc on met les choses dans la balance aussi. Mais par contre, c'est une question de double effet parce qu'elle se dit, mais attention, certaines bonnes conséquences d'une action, en fait, sont constitutives de la présence de la mauvaise conséquence de cette même action. Et il est absolument interdit de considérer comme bien une conséquence, même si elle est bonne en soi, qui aurait été produite par l'existence de la mauvaise conséquence. Et là, je reviens sur mes deux dilemmes tout à l'heure, et ça nous permet de les distinguer, ce principe-là. C'est-à-dire que dans le premier, la mort de la personne qui va être sur la voie, à l'autre bout de la voie, c'est une mort qui est contingente. D'accord ? Je veux dire, c'est pas l'action directe en fait, du levier qui va provoquer sa mort. C'est parce que j'ai, évidemment, ça va être une conséquence, si vous voulez, de l'action de dévier le train, d'accord ? Mais ce n'est pas le levier lui-même qui produit la mort. D'accord ? C'est le fait qu'on fasse dévier le train, et c'est le train, au final, qui va être résultant, enfin, qui va produire la mort, à la fin. Alors que, dans le cas du dilemme du pont, cette fois, c'est grâce à la mort de la personne qu'on va pouvoir arrêter le train. D'accord ? Il y a le choix délibéré de tuer. On a besoin de faire ça pour pouvoir sauver les gens qui sont en bas. Si on avait la même situation avec une caisse, une espèce de grosse boîte à outils qu'on pousse et qu'on fasse tomber, qui est la même chose que de faire derrière le train, comme ça avait été dit tout à l'heure, en fait, là, il n'y a pas de problème de double effet. D'accord ? Et on aurait bien clairement pas de dilemme. Okay. Donc la distinction, elle se fait entre les deux. Tout ça pour vous dire voilà, qu'il y a certains principes, et que c'est ces principes-là qu'on aurait peut-être intérêt à essayer de modéliser d'une manière ou d'une autre pour essayer de prendre des décisions un peu éclairées. Il y a un dernier grand concept, des concepts qui sont importants, c'est la notion de valeur. Alors malheureusement, je pense que vous ne pouvez absolument rien voir sur le dessin, ce n'est pas très important. C'était pour illustrer cette idée-là. En fait, souvent, quand on fait du raisonnement éthique, on va poser la question de valeur. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire uniquement c'est juste, c'est injuste, d'accord ? Mais on va se donner des qualités, des qualifications, des caractérisations d'états, de principes, de règles qui nous paraissent plus importants que d'autres au nom d'une certaine valeur, d'accord ? Et on s'en sert souvent quand on veut décrire en fait des codes de déontologie. Par exemple, dans la déontologie médicale, lorsqu'on parle de dignité d'un patient, je veux dire, c'est une notion qui est forte, d'accord, et qui est des fois, en fait, justement, qui est pas toujours, qui peut être très bien définie dans la loi, mais d'un point de vue philosophique, qui est pas toujours clairement définie, d'accord. Et on s'appuie sur ces choses-là pour prendre des décisions éthiques et morales. Et donc, du coup, c'est aussi important de représenter ces notions de valeur dans des systèmes artificiels. Comment est-ce qu'ils peuvent raisonner dessus? Donc là, je vous cite quelques travaux, mais on n'a pas forcément besoin d'entrer vraiment dans le détail, mais ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que ces valeurs, c'est des systèmes de caractérisation, d'accord, de qualification, qui sont hiérarchisés, qui peuvent changer avec le temps, selon la situation. Et donc, il y a toute une complexité aussi à modéliser. D'accord ? Pour résumer, c'est peut-être, je pense, plutôt cette petite cette diapo-là qui résume un peu les choses. Hein, dans votre machine, vous devez modéliser explicitement des choses qui vont clarifier ce qu'est la morale, ce qu'est l'éthique, d'accord ? En termes de valeurs, de règles. Parfois, il peut y avoir des notions d'émotion qui interviennent dedans. Voilà. Si on veut faire du raisonnement éthique et moral, c'est tous ces objets-là qu'il va falloir modéliser. Vous voyez ? Et chacun d'entre eux est quelque chose d'assez complexe. Et tous les informaticiens sont pas forcément formés sur ces questions-là, d'accord ? Et tous les gens qui travaillent dans le domaine de la philosophie, des sciences cognitives, sont pas forcément formés en informatique. et on sent bien pourtant qu'il y a une interaction entre les deux, importante, si on veut pouvoir concevoir ce type de système. D'accord ? Ça va pour tout le monde ? Alors, je pourrais vous parler d'architecture d'agent, mais je vais sauter un peu cette partie, c'est une autre partie un peu technique. Vous avez éventuellement les diapos si elles vous intéressent. Il y a une chose à retenir, c'est que vous voyez, je vous ai parlé beaucoup de ces différents concepts. Si on veut avoir ce qui nous paraît important, en fait, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a jamais de bonne solution. Par contre, il y a des bonnes justifications ou des mauvaises justifications. Ce qui est important, c'est que votre machine, si elle prend une décision qui fait intervenir des questions éthiques ou morales, ce n'est pas tant la décision elle-même qui est problématique, c'est le fait de ne pas pouvoir les justifier. D'accord ? Puisqu'on a vu qu'on va avoir différentes réactions, différentes choses que les humains peuvent désirer. D'accord ? Donc, il faut que notre machine puisse expliciter ses décisions. Or, toutes les techniques à base d'apprentissage artificiel jusqu'à présent, en tout cas celles qui ont le vent en poupe et qui utilisent des techniques de réseau de neurones, sont incapables de produire des justifications. Si je prends un réseau de neurones et que je l'ouvre, que je regarde ce qu'il y a dedans, je vais trouver des poids entre les connexions, vous vous souvenez de ces différents neurones. Donc je vais pouvoir dire, ah oui, bah, la machine a pris cette décision parce que le neurone numéro bidule avait un poids de temps par rapport au neurone machin. Mais ça ne vous dit rien. D'un point de vue éthique, moral, d'un point de vue judiciaire. Et en tant qu'utilisateur de système intelligent, système autonome, vous aimeriez bien que si votre machine vous prenne une décision, qu'elle puisse vous dire bah, « j'ai fait ça parce que il y a ça ». Après, vous pouvez ne pas être d'accord, mais au moins, vous pouvez savoir pourquoi ça a été fait. D'accord ? Donc, c'est vraiment un point essentiel. Et donc, il me semble que des techniques à base de raisonnement me semblent être plus à même que des techniques à base d'apprentissage, on va dire, statistique, pour modéliser ce genre de choses. Voilà. Et ça pose aussi une question, puisque ce n'est pas trop non plus le domaine qui a le plus le vent en poupe aujourd'hui, en tout cas qui est utilisé dans les grandes applications qui sont industrialisées. Voilà, c'est vraiment ça la question. Alors, je vais passer cette petite partie, et je vais revenir sur une autre question, celle du rapport entre l'aspect de l'agent et la manière dont on l'accepte. Parce que si on veut prendre des décisions éthiques ou morales, ok, c'est bien, mais on va se rendre compte qu'il y a une autre difficulté qui est que selon ce à quoi ressemble l'agent, la machine qui prend la décision, ben en fait, on n'est pas d'accord sur ce qui est bien ou pas de faire. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème que nous, humains, nous devons traiter. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur des machines intelligentes qui doivent être capables d'exprimer, de présenter des émotions. D'accord ? Parce qu'on sait que ça facilite en fait les interactions avec des êtres humains. Là, vous avez ici des photos de Kismet. Alors, c'est un vieux robot qui ressemble un peu à Gizmo, dans les Gremlins. Et tous les éléments de son visage sont animés. D'accord ? Les oreilles, les yeux, la bouche. Il a un système de reconnaissance audio, donc il est capable de reconnaître les intonations. Pas ce qu'on lui dit, mais si on lui crie dessus, il va reconnaître qu'on lui crie dessus. Si on lui parle gentiment, il va le reconnaître. Et il est capable de gazouiller, d'émettre des petits bruits qui représentent aussi ses émotions. Et voilà, donc il a un large panel. C'est très rigolo. Ça, les enfants adorent ça, bien sûr, évidemment. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il est capable de simuler une large gamme d'émotions. Et qu'on s'est rendu compte que les interactions qu'on entretenait avec cette tête, parce que c'est juste une tête animée, avec la tête animée, dépendent aussi de la manière dont lui réagit. D'accord ? Voilà. Ça, c'est vraiment un point important. Pour comprendre cette chose, on peut la mettre en perspective avec une autre forme de robot qui a eu son heure de gloire à un moment donné, ce qu'on appelle les géminoïdes. Alors, vous avez peut-être entendu parler, c'est un chercheur japonais, Ishiguro, qui a construit des machines, alors initialement à son image, là on le voit ici avec son double, qu'il envoyait faire court à sa place. Ce n'est pas des machines intelligentes, c'est des machines complètement téléguidées. D'accord ? Il n'y a aucune technique d'IA à l'intérieur. C'est juste un gros travail en robotique. Mais du coup, il y a une question qui se pose, en fait, c'est qu'on voit les deux côte à côte, c'est quel rapport est-ce qu'on entretient avec, avec les deux. Alors, bon, déjà, c'est vrai qu'Ishiguro n'a pas forcément l'air avenant sur les photos qu'il donne de lui, mais avec la machine à côté, il y a quelque chose d'assez étrange. Et ça encore, ça fait un peu suite en fait à une réflexion qu'on se pose sur le rapport qu'on entretient, nous, avec des machines, avec des systèmes, la manière dont on les regarde, dont on les perçoit. D'accord ? Et ça, c'est vraiment lié à une notion que je cite ici, qu'on appelle la vallée de l'étrange. Alors, vous en avez sans doute entendu parler. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au moment où ce concept a été un peu postulé, il n'y avait aucune preuve empirique de son existence. Hein. C'était une idée comme ça, complètement en l'air. Et on se dit, voilà, la personne qui a travaillé là-dessus se disait, bah voilà, plus une machine ressemble à un humain, plus on va avoir un degré de familiarité avec elle. Plus on va être capable de ressentir une forme d'empathie, d'attirance, en tout cas, plus on va être en état de faire des interactions avec cette dernière. Sauf qu'au bout d'un moment, quand la machine ressemble vraiment à un humain, mais pas vraiment non plus, d'accord ? Il y a quelque chose d'étrange qui se passe. On a le rapport qu'on entretient avec elle va être complètement différent et on va en être un peu effrayé, d'accord, voire dégoûté. D'accord. Et donc il représentait voilà cette vallée, c'est ça, cette redescente du niveau de familiarité qui de son point de vue était plus ou moins creusée en fonction du fait que le robot soit mobile ou non. D'accord ? Un objet immobile, on a moins de rapport avec un objet immobile qu'avec un objet mobile. Voilà. C'était ça la question. Et bien évidemment, vous comprenez bien que ce qu'on attend ou ce qu'on va désirer de la part d'un robot industriel, ça ne va pas être la même chose que de la part d'un petit robot en peluche qui danse et qui fait du bruit, qui chante. D'accord ? On n'est pas du tout dans le même rapport, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Surtout quand le petit robot en peluche va pouvoir prendre des décisions par lui-même. D'accord ? Va pouvoir calculer des plans sur lesquels vous n'avez pas forcément de maîtrise. Alors, je vous disais que ce n'était pas forcément, au début, quand c'était postulé, ça, c'était pas très, très clair, mais il y a beaucoup de chercheurs en psychologie qui travaillent dans des labos de la robotique et qui se sont intéressés à essayer de valider empiriquement ces choses-là. Parce que je pense que ça... Je vous dis ça, je pense que c'est extrêmement important de valider empiriquement des questions d'ordre psychologique, cognitif, en particulier quand elles ont des liens avec la technologie, parce qu'on peut faire des expérimentations assez, assez facilement. Et l'expérimentation, c'est vraiment un point très, très important pour comprendre comment ces choses fonctionnent et qu'est-ce qu'on doit développer, qu'est-ce qu'on doit faire. Et donc là, ils ont expérimenté alors avec donc vous voyez des différentes catégories. Et donc, vous avez des types de marches de mobilité. Ils se posent la question, est-ce qu'une machine mobile, immobile, construit la vallée de l'étrange? Et est-ce que si on change un peu, on distord un peu les mouvements, si je me mets à bouger de manière un peu saccadée, est-ce qu'on va avoir moins de familiarité envers moi que si j'ai des mouvements fluides? Voilà, c'était ça les questions. Donc ça, c'est les grandes catégories que vous voyez. Et puis à l'intérieur, vous avez voilà, différents types de robots qui étaient confrontés avec à des gens. D'accord. Et en suivant leur degré de ressemblance, on va dire, avec des humains. Okay. Donc on confrontait. Alors l'idée, c'est on confronte l'expérimentation, on confronte des gens à des images de ces machines et on leur demande quelle est leur première réaction. D'accord. Comment ils la ressentent. D'accord. Donc il y a des biais, bien sûr, hein, mais voilà. Et à chaque fois, on a retrouvé la vallée de l'étrange. D'accord. On la voit apparaître. Alors, plus ou moins creusé, vous voyez, ce n'est pas aussi marqué, évidemment, mais c'est qu'une expérimentation parmi d'autres. Il y a plein d'autres travaux qui sont intéressés à ça. Donc, c'est assez clair que ce phénomène semble être assez réel. Par contre, on peut se poser la question, on n'a jamais travaillé sur la question de la persistance temporelle de ce genre de phénomène. Est-ce qu'au bout d'un moment, on s'habitue? Est-ce que si on vit dans un monde où on a beaucoup de machines autour de nous, est-ce que finalement, c'est toujours vrai? Voilà. Est-ce que ça change selon l'âge de la personne? Est-ce que ça change selon le genre, la culture, et ainsi de suite? Bon, on n'a pas de réponse à toutes ces choses-là, d'accord? Mais il y a plein de choses à faire, je pense, de ce côté-là. Voilà. En tout cas, c'est sûr, la forme du robot a une influence sur la manière dont on le perçoit. D'accord? Et là, maintenant, On peut se poser la question, c'est plus que ça. C'est que la forme du robot va changer nos perceptions de la justesse de ses décisions. Et ça, c'est vraiment une expérimentation, je trouve, assez intéressante, réalisée par Bertram Malleux, alors qui est professeur de psychologie à la Brown University. Et lui, il travaille dans un laboratoire de robotique avec des roboticiens et d'autres psychologues. Et il s'intéresse beaucoup à ces questions-là de l'acceptabilité des machines et comment nous, on interagit avec. Il fait vraiment un travail très intéressant. Et donc, du coup, il a fait une expérimentation ici en mettant des gens face à un dilemme du trolley, d'accord, le dilemme classique tel que je vous l'ai présenté. Et donc, c'est une expérience narrative, c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire en montrant des images et puis on demande aux gens leur avis, d'accord. Et l'idée, c'était qu'on va présenter donc à chaque fois le dilemme aux personnes avec différents types de protagonistes, une IA désincarnée, un espèce de robot mécanique, un espèce de robot un peu humanoïde, et puis un humain, d'accord, qui prend la décision. Et on conclut l'histoire en donnant toujours une solution. Donc on dit que le protagoniste a pris une décision complètement au hasard. Il n'y a que deux chances, mais on la prend au hasard. Et on donne une justification au hasard parmi un ensemble de justifications plausibles. D'accord ? Donc, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas de principe modélisé ni quoi que ce soit, d'accord ? On regarde juste l'effet que produit la décision sur celui qui reçoit l'histoire. D'accord ? C'est juste plausible, mais c'est tout. D'accord ? L'expérimentation est une expérimentation à très large échelle. À ma connaissance, il a fait deux expérimentations avec 500-600 participants. D'accord ? Donc, c'était plutôt... Évidemment, ça reste... petit, qu'on imagine la taille du nombre d'humains, mais voilà. Avec une grande parité homme-femme, d'ailleurs, en fait, donc ça, c'était aussi bien. Voilà les résultats des deux expérimentations qui, à chaque fois, laissent apparaître un phénomène un peu étrange. Donc, vous voyez ici, donc on posait la question à la fin, la décision qu'a pris le protagoniste est-elle juste ? D'accord ? Donc, peut-on le blâmer pour la décision qu'il a prise ? Et donc, vous voyez ici les barres en pourcentage, d'accord ? Les barres creuses, c'est quand il y a un blâme pour inaction, je laisse mourir les 5 personnes. Quand barre pleine, c'est un blâme pour l'action, d'accord ? J'ai écrasé une personne toute seule, d'accord ? Première chose, bon, on voit que c'est assez partagé, hein. Là, ça oscille entre, on va dire, 20 et 50, d'accord, pourcent. D'accord, donc, c'est pas du tout... Il n'y a pas une seule bonne décision. Hein, c'est pas 90% des gens disent « c'est ça qu'il fallait faire, point ». D'accord. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, en fait, on blâme plus souvent les protagonistes pour leur action que leur inaction. L'action, c'est-à-dire décider d'aller faire écraser quelqu'un pour en sauver 5, et quand même une décision vue comme injuste dans la majorité des cas. Sauf un. Et c'est là où c'est intéressant, les courbes s'inversent, les barres s'inversent. Quand c'est le robot à apparence non humanoïde qui prend la décision, en fait, il est plus souvent blâmé quand il n'agit pas que quand il agit. L'inversion se réitère sur la deuxième expérience, c'est moins marqué, d'accord ? Mais il y a moins de monde dans l'expérimentation, et évidemment, enfin, voilà, il y a des biais, hein, vous voyez, les boîtes à moustaches montrent voilà, qu'il y a quand même une variance, mais il y a bien l'inversion qui se fait aussi, à cet endroit précis. C'est assez étonnant. Et ce qu'on déduit, Malleux, c'est que finalement... ce qu'on considère comme étant juste et injuste, ça dépend aussi de qui a pris la décision. Le rapport qu'on a avec celui qui décide, eh ben en fait, on peut laisser passer plus facilement des choses selon la personne qu'on observe, selon ses caractéristiques. Et on attend du robot non humanoïde un comportement de robot. Et l'image qu'on a du comportement du robot, c'est le robot qui calcule. C'est le robot utilitariste, d'accord, qui minimise les pertes en vie humaine. C'est ce qu'on attend de lui a priori. Mais vous voyez qu'on a un robot qui devient un robot humanoïde, on voit toujours que c'est un robot. Et là, on attend de lui une décision plus humaine. Très étrangement, j'avais discuté avec Bertram, je l'avais rencontré quand il avait présenté ses travaux. Donc, il y a la boîte, donc c'est l'IA, donc c'est l'ordinateur. Très étrangement, l'ordinateur qui est beaucoup plus, il y a une forme encore plus robotisée que le robot, hein, c'est une caisse, hein, enfin, rien de plus. Et ben en fait, on attend quand même de lui une décision plus humaine. Alors, l'explication qu'il me donnait, c'est qu'en fait, il était précisé dans l'histoire que ce n'était pas un ordinateur, c'était une intelligence artificielle, désincarnée. Et donc, il suppose qu'en fait, les participants comprenaient l'intelligence artificielle au sens très large, très abstrait, et donc s'attendaient à quelque chose un comportement plus humain qu'un robot qui représentait le petit robot à roues, le minimum de la machine. Voilà, c'est vraiment ça le point. Alors, et ça, c'est vraiment important parce que finalement, même si on arrive à implanter des comportements éthiques à nos machines, on va se rendre compte que nous, on va considérer leur comportement comme étant juste ou injuste en fonction de ce à quoi elles ont l'air. Ah, vous voyez que ça introduit un degré de complexité sur ce qu'on veut concevoir qui n'est pas trivial. D'accord ? Voilà. Donc c'est vraiment un point important. Autre point, en fait, on se rend compte que les émotions et l'apparence du robot, elles vont aussi pouvoir lui servir, parfois pour des buts détournés. D'accord ? On sait qu'on a tendance à faire plus confiance à des robots qui vont exprimer des émotions, d'accord ? Toujours notre valet de l'étrange, hein, on a plus de familiarité, on va plus interagir, on va être moins sur nos gardes, que des robots qui ne sont pas expressifs. Et donc là, vous avez des exemples de robots. Alors là, c'est Nexi, le premier, qui a l'air tout triste et tout malheureux. Et juste à côté, c'est le robot Pepper. Pepper, hein, il y a des banques qui s'en servent pour renseigner les clients et leur proposer des produits d'appel. Je sais qu'il y a des entreprises qui vendent des bonbons qui s'en servent aussi. Donc quand les enfants rentrent dans les magasins et qu'il y a le sympathique robot Pepper qui vient leur dire « Oh, regarde tous les beaux bonbons ». Voilà, les enfants ont tendance à apprécier le robot et donc être plus réceptifs à son discours. Et il y a eu un travail intéressant sur Nexi. On l'a fait jouer à un jeu de dilemme du prisonnier. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est pas très important avec un humain. Et on se rendait compte que l'humain avait plus tendance à se laisser faire par la machine quand cette dernière avait l'air d'exprimer des sentiments. D'exprimer des sentiments au sens « Oh, elle est en train de perdre », donc Nexi est en train de perdre, donc il fait une tête comme ça « Oh, j'ai l'air triste ». Et donc l'humain se laissait gagner plus facilement le robot dans ces circonstances-là. Voilà. Mais on comprend bien que la représentation des émotions et les objectifs du robot sont deux choses complètement décorrélées. On a vu dans le problème de planification que notre robot, s'il a des actions pour générer des émotions et que ces actions lui permettent d'atteindre son but, il va le faire, quel que soit le sens de l'émotion qui est derrière. D'accord ? Il maximise son gain. Donc voilà, il faut se poser ces questions-là quand on est face à une machine et qu'on les conçoit. D'accord ? Qu'est-ce qu'on doit représenter ? Ok. Pour terminer, je vais essayer d'être bref pour qu'on se garde quand même peut-être 10 petites minutes de discussion quand même. J'ai passé sur une question de droit. Voilà, vous voyez, j'ai balayé plein de choses. Voilà. Mais ça nous pose aussi des questions de droit. Prenons l'exemple de notre voiture autonome. Elle a été programmée. Il y a un dilemme du trolley qui fait son apparition dans l'environnement. La voiture doit y répondre. Elle y répond d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même des victimes. Qui est responsable ? De quoi ? Comment ? Voilà. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Alors, voilà. Qui est responsable des plans et des politiques calculés par un agent autonome ? D'accord ? Je dis bien, je ne parle pas de responsabilité au sens de la conception de l'agent pur ou des buts qu'on lui a implémentés, parce que ça, c'est des choses qui sont explicites. Mais le plan qui est calculé, les séquences d'action qui sont calculées en ligne, ça, elles ne sont pas explicites dans le code de votre machine. D'accord ? Elles sont générées. Donc là, la question de la responsabilité va se poser. Et on va avoir des questions de droit qui commence un petit peu à naître. Hein, il y a des gens qui commencent à travailler dessus pour essayer d'identifier, en fait, qu'est-ce que les machines autonomes doivent... comment est-ce qu'on peut considérer le droit à leur niveau ? Parce que la vraie question, c'est comment identifier les responsabilités juridiques dans les décisions qui sont prises par des machines autonomes afin de permettre des dédommagements, parce que la justice, c'est ça essentiellement, tout en conservant une incitation au développement. Parce que si on dit, un concepteur, un développeur, il est responsable à 100% de tout ce que fait la machine, de tous ses usages, on craint qu'il y ait peu de développement qui se fasse dans ce domaine-là. Donc c'est comment est-ce qu'on essaie de trouver un bon compromis entre les deux, sachant évidemment que c'est des machines, donc ce ne sont pas des humains. Elles n'ont pas de droits, elles n'ont pas de devoirs, comme nous, d'accord ? C'est que des outils. Pourtant, elles ont une petite part d'autonomie. Voilà. Donc comment est-ce qu'on tient compte de ça, sachant que jusqu'à présent, seules les personnes physiques, c'est-à-dire les humains, et les personnes morales, les entreprises, les associations, les États, d'accord, ont une personnalité juridique et donc peuvent être soumis à une notion de responsabilité. D'accord, voilà. Donc la question qu'un certain nombre de juristes se posent aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut changer le droit pour pouvoir l'adapter à la présence de machines autonomes en circulation dans notre environnement ? Voilà. Ça, c'est une question, c'est notre question fondamentale. Et donc il y a des débats importants. Sachant que y a pas mal de gens, alors même au niveau international, qui se posent des questions. Il y a Human Rights Watch qui travaille beaucoup en ce moment pour interdire les armes autonomes, d'accord, les armes qui peuvent prendre des décisions de tir sans contrôle direct d'un humain. Je dis bien sans contrôle direct. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais voilà, c'est. Voilà, ils veulent inscrire ça dans le droit international, les bannir, d'accord, au même titre que les armes à sous-munitions ou ce genre de joyeuseté. Et leurs deux grandes propositions, bien sûr, c'est d'intégrer un humain à chaque grande étape de décision. Bon, ça me paraît... pour les armes autonomes, peut-être, mais bon, dans d'autres cas, c'est pas forcément nécessaire. Mais surtout, rendre transparents les processus et métriques internes des agents. Donc c'est ce que je vous disais, l'explicabilité, c'est vraiment le point essentiel. Et puis il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur cette question-là aussi pour essayer de clarifier les principes légaux et les responsabilités liées au système intelligent. Je vous ai donné ici quelques liens, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse pour récupérer de la doc. Alors, bon, il y a une espèce de grand questionnement juridique. Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas trop aller dans les détails, mais entre... ceux qui pensent que, en fait, il faut donner une personnalité juridique aux machines autonomes afin de pouvoir spécifier les responsabilités dans une structure hiérarchique entre l'utilisateur, le concepteur, le propriétaire, voilà. Et puis, il y a ceux qui sont plutôt contre et qui disent maintenant, il y a déjà tout dans le droit pour pouvoir. Pour pouvoir gérer ce genre de choses. Donc derrière, voilà, il y a des gens qui ont différents types d'arguments. Mais le questionnement, en fait, pour moi, me pose problème, en fait. C'est parce que la question qu'on se pose, c'est savoir s'il faut doter une machine d'une personnalité juridique ou se servir des personnalités juridiques des gens qui utilisent des machines pour prendre des décisions d'ordre juridique. C'est juste une question de forme. Qui ne va pas régler les détails, en fait. C'est-à-dire qu'on va se poser la question, est-ce que l'humain est le représentant légal de la machine ou est-ce que la machine est le mandataire, en fait, de l'humain ? Parce que dans tous les cas, il va y avoir, au bout d'un moment, une décision de partage des responsabilités et de dire, voilà, c'est telle ou telle personne qui va devoir payer. Donc. De plus, il y a un gros problème, c'est que quand il y a une personnalité morale, d'accord, on fait une hypothèse, parfois un peu forte, qui est que derrière, il y a une communauté d'intérêts. C'est-à-dire la personnalité morale d'une entreprise, c'est la communauté d'intérêts, d'accord, de toutes les personnes qui ont des actions dans l'entreprise, qui sont propriétaires dans l'entreprise. Ils ont intérêt à défendre cette dernière. Dans la personnalité juridique d'un humain, la personne physique, bah, notre corps est une communauté d'intérêts avec chacun de ces autres éléments. D'accord ? Mais si on fait ça pour les systèmes autonomes, quel est l'intérêt commun qu'il y a entre des utilisateurs, des concepteurs de systèmes, des propriétaires de systèmes, des vendeurs de systèmes ? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Je veux dire, l'intérêt de Facebook n'est pas votre intérêt, au contraire. Non mais il faut être clair dessus. L'intérêt des vendeurs de voitures, ce que je vous parlais, les problèmes d'acceptabilité, c'est que vous acceptiez de monter dans des voitures autonomes. C'est ça leur problème. Ce n'est pas le fait que ça écrase vos enfants ou votre petite sœur ou des passants. Ça en fait partie, si vous voulez, mais ce n'est pas le problème essentiel. Donc d'un point de vue juridique, en fait, les utilisateurs, concepteurs et propriétaires vont avoir des intérêts divergents. Il va falloir régler les questions en interne à ce niveau-là. Et c'est ça le vrai problème juridique. Alors du coup, il y a des gens qui ont essayé de raviver, alors c'est assez rigolo, de repenser des concepts juridiques nouveaux ou anciens pour pouvoir les appliquer à des agents artificiels. Ce qui en ressort, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait se poser la question, pour distinguer les types de responsabilités, la question de la paternité et de la connaissance. Voilà. C'est-à-dire que la responsabilité des uns est liée à leur connaissance concernant le système autonome et à sa paternité, c'est-à-dire à la quantité de spécifications qu'il a inclus à l'intérieur. Je vais m'expliquer. Ça remonte un peu à une notion de ce qu'on appelle la noxalité dans la Rome antique. Donc, la Rome antique, l'idée, en fait, c'est que un père de famille, un chef de famille, c'est une société très patriarcale, hein, est responsable de tous les individus et de toutes les choses, donc individus et choses, hein, c'est pareil, qui sont placés sous son autorité. Ses enfants, son épouse, ses esclaves, ses biens, ses animaux. C'est tout ensemble, d'accord ? Donc, le paterfamilias est responsable de tout. D'accord ? S'il y en a un qui fait une bêtise, ce n'est pas la personne qui fait la bêtise ou qui commet le délit, d'accord, qui est responsable, c'est le paterfamilias. Cependant, ce dernier avait un droit qu'on appelle l'abandon noxal. Ce dernier pouvait dire, ben voilà, je n'ai pas la connaissance ou j'ignore les faits qui sont reprochés au bien en question, bien individu ou bien réel, hein, c'est la même chose. Et dans ce cas-là, puisque je l'ignore, j'ai ignorance de ce qui a été fait, alors je peux abandonner la personne. Je retire mon autorité sur cette dernière. Je perds mes droits sur cette dernière, mais par contre, je ne suis plus responsable de quoi que ce soit. Alors, il faut savoir que dans la Rome antique, hein, ça conduisait forcément, enfin la plupart du temps, à une procédure de vengeance, d'accord, sur la personne qui était abandonnée et qui n'était plus sous une autorité quelconque. Ce qui était problématique, évidemment, mais là, on se pose pas tout à fait les mêmes questions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire, mais en fait, la responsabilité, elle va dépendre de la connaissance qu'on a de ce qu'est en train de faire la machine, d'accord, et de la quantité de connaissances qu'on a injectées dans cette dernière, personnellement, pour pouvoir lui faire prendre des décisions. D'accord ? Si vous avez, par exemple, un robot qui est censé vous aider dans vos tâches ménagères, d'accord ? Il est codé avec un réseau de neurones, d'accord ? Et que, en fait, avec vous, il apprend n'importe quoi et commet quelque chose, enfin voilà, casse les vitres du voisin, ce que vous voulez. Okay ? Si on peut montrer que dans l'ensemble, si c'est vous qui lui avez fourni des exemples qui lui permettent d'inférer qu'il faille casser la vitre, en fait, la responsabilité, elle est sur vous. Parce qu'en fait, vous lui avez donné la connaissance. D'accord ? Et en plus, vous êtes père de cette dernière. Vous l'avez fournie. D'accord ? Donc, on peut essayer de distinguer les responsabilités comme ça. Alors, ce n'est pas évident. Je veux dire, c'est vraiment des travaux qui sont complètement en cours. Mais l'idée, ça serait de se dire, ben voilà, on va avoir, en fonction du cadre dans lequel s'applique la question juridique, eh ben, on va considérer la responsabilité noxale soit du concepteur, soit de l'utilisateur, voilà, soit du programmeur pour la collecte de données ou des choses comme ça. D'accord ? Voilà. C'est un peu ça l'idée. Voilà, l'abandon, c'est pas toujours réaliste. D'accord ? Il y a tout un système de calcul. Voilà. Et Et l'idée, en fait, ça serait qu'on pourrait peut-être toujours se servir d'anciens codes qu'on pourrait construire, toujours sur la question de la connaissance et de la paternité, mais qui n'impliquerait pas forcément un abandon. Et donc, il y a des gens voilà, qui se sont dit, bah, voilà, on va peut-être essayer d'érotiser le code de la responsabilité du fait des animaux. Et, très étrange aussi, l'utilisation du code noir des anciennes colonies françaises, donc le code qu'on appliquait d'un point de vue légal aux esclaves, mais les machines sont un peu nos esclaves aussi quand même. Voilà. Un animal, vous pouvez pas, par exemple, vous pouvez pas l'abandonner. D'accord. Si vous êtes, s'il commet, je veux dire, un acte répréhensible, d'accord, vous en êtes en partie responsable, mais vous pouvez pas l'abandonner. D'accord. Mais par contre, vous ne supportez pas la charge de toute la pénalité qui peut être liée en fait à ce qu'il a commis. D'accord. Ça, c'est vraiment un point important. Et c'est un peu la même chose, en fait, dans le code noir. Voilà. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui essayent de raviver, en fait, des anciennes pratiques pour essayer de les appliquer, en fait, aux pratiques d'aujourd'hui et aux questions d'aujourd'hui. OK ? Donc, voilà un peu l'idée. Je vais m'arrêter ici. Juste une petite conclusion. Ce qu'il faut retenir, je pense, le plus important, c'est qu'un agent qui va être autonome, lui, il va décider ses actions en fonction des buts qui lui sont donnés. Il va chercher à réaliser ses buts le plus efficacement possible. Hein, c'est pour ça qu'on le programme. Il n'a pas de sens culturel ou empathique, a priori. Et du coup, dans ce cas-là, être efficace, ça veut parfois passer par ne pas dire la vérité, abuser de formes de confiance, d'accord, ou ne pas tenir compte de critères éthiques ou moraux que nous, ils peuvent nous paraître intuitifs. D'accord. Donc, du coup, il y a des questions de ce type-là, je pense, à creuser. Sachant qu'en plus, notre jugement va changer en fonction de l'apparence de l'agent et que l'opacité des décisions peut nuire à l'évaluation de ses responsabilités. Voilà. C'est vraiment les points essentiels. Alors, cependant, je ne voudrais pas non plus terminer en vous disant « Oula, les machines, mon Dieu, c'est terrible !» Voilà. On ne va pas pouvoir les contrôler ni quoi que ce soit. Je pense qu'il y a quand même, des choses super, super intéressantes avec ça. Il ne faut pas les penser contre nous, loin de là. Il faut les penser avec nous, à mon avis. Et j'ai ici quelques exemples de travaux récents dans lesquels on utilise des machines pour faire des choses qui me paraissent plutôt intéressantes. Par exemple, les travaux de Yann Siorta, c'était un travail sur les réseaux sociaux, et donc il mettait en place des petits systèmes intelligents qui vérifiaient si on était en train de partager des données à caractère confidentiel qui pouvaient violer le respect de la vie privée de quelqu'un d'autre. Et la machine se contentait de détecter ces choses-là et de nous prévenir et dire « Attention, vous risquez de violer la vie privée de machin ou de machin ». Et de manière intéressante, en fait, dans les petites expérimentations qu'il a fait, alors elles sont à petite échelle, mais il se rendait compte que, en fait, la plupart des gens, une fois qu'ils avaient conscience de ça, ils disaient « Ah oui, bah oui, effectivement », et arrêtaient de partager. Et sans être intrusif, en fait, ça venait renforcer l'humain. L'humain avait toujours le dernier mot, il pouvait quand même partager s'il le voulait. Mais du coup, il y a une collaboration, on va dire, d'éthique entre la machine et l'humain. Et je pense qu'à deux, c'est un peu mieux de ce côté-là. Évidemment, tous nos utilisateurs sont quand même aujourd'hui à la recherche de transparence. Hein, que c'est quelques travaux qui laissent penser que, suite à quelques questionnaires, que les gens vont quand même placer, en tant qu'utilisateurs, plus d'importance à la transparence et au contrôle qu'à l'efficacité des algorithmes. D'accord. Donc, il vaut mieux chercher à faire des algorithmes qui ne sont peut-être pas forcément les plus efficaces, mais qui soient les plus clairs, les plus simples et les plus transparents. Voilà. La course à l'optimisation n'est pas forcément l'aboutissement de tout, voilà. Et la collaboration de machines, c'est aussi plus efficace. Et petit exemple, là, donc c'est un réseau de neurones qui apprend à diagnostiquer les cancers dans l'imagerie médicale. Généralement, le taux d'erreur est d'à peu près de 3,5% pour les médecins humains. Et actuellement, en 2016, là, dans ce papier-là, c'était 7,5% pour la machine. D'accord. Et du coup, les auteurs ont mélangé les deux, c'est-à-dire qu'ils ont... Ils ont permis à un médecin humain de prendre une décision, d'accord, après avoir eu l'avis de la machine. Et avec les deux, en fait, le taux d'erreur est tombé à 0,5. Voilà. quand le médecin risquait de se tromper, parfois la vie de la machine lui permettait de dire « Ah oui, effectivement, j'ai fait une erreur, et voilà. » Et inversement, quand la machine se trompe, le médecin peut dire « Oh non, attention, là, il y a une erreur. » Et on voit bien que la collaboration des deux est plus efficace plutôt que l'un remplace l'autre définitivement ou qu'on se repose uniquement sur elle. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention. Il nous reste un petit peu de temps et puis si vous avez des questions, je suis tout ouïe. Ouais.
Je pensais au robot de Twitter que vous montriez tout à l'heure.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez faire un test de Turing en échelle?
Ouais, ça ressemble à un test de Turing. Alors en pratique, ça l'était pas parce qu'on savait que c'était une IA. Elle était présente, elle était présentée en tant que telle, d'accord. Voilà. Et donc du coup là, c'était clair de ce côté-ci. Ah ouais. Ok, bah écoutez, merci. Ah. Ouais, mais en fait, ouais. Moi, sincèrement, je ne pense pas qu'il puisse prendre le contrôle du monde, parce qu'en fait, mais vous allez voir, en fait, ce qu'il veut, c'est que votre machine, jusqu'à présent, il y a une chose qu'on ne sait pas faire, et je pense pas qu'on sait, pour l'instant, en tout cas, on n'y arrivera pas. C'est lui permettre de décider par elle-même de ses buts. Votre machine, elle est toujours spécifiée en fonction d'un but, d'accord. Donc ce qui peut se passer, c'est que finalement, c'est un peu ce qui se passe, c'est qu'on utilise de plus en plus de machines, et non pas qu'elles prennent contrôle du monde pour prendre contrôle du monde, mais que par feignantise ou par simplicité, on délègue de plus en plus nos actions à ces dernières et on met un peu en stand-by notre esprit critique par rapport à ça. Je reprends l'exemple de la justice prédictive ou de la médecine, la médecine prédictive, ou des prêts bancaires prédictifs. Je veux dire, c'est bien c'est le contraire même de l'intelligence et de la réflexion, de dire j'ai une machine qui va me dire oui ou non, il faut que j'accorde un prêt, et puis on oublie de se poser la question de qu'est-ce qu'on doit faire explicitement à un moment donné. Voilà. Et on s'en rend compte, hein, c'est que ça crée des distanciations, l'utilisation d'une machine comme ça. Qui va pas penser à notre place, mais qui va décider à notre place. Et dans la plupart des cas, c'est très commode. Et donc, du coup, finalement, on s'y habitue et on laisse faire. Voyez. Donc, c'est plutôt, quand je dis une forme de contrôle du monde, c'est plutôt ça dont il faut être, sur lequel il faut être précautionneux, qu'une idée de guerre ou de prise de pouvoir qui n'arrivera pas. De toute façon, en dernier point, ne jamais oublier, les machines appartiennent toujours à quelqu'un. Et leur présence arrange toujours celui qui les a mises en place. C'est plutôt lui qui contrôle les choses que la machine elle-même. Voilà. Ok, merci.